VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Conakry, 18h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. Au Mali, la réunion ministérielle du 27e sommet Afrique-France a eu lieu ce vendredi 13 janvier. Les ministres des Affaires étrangères des pays africains et de la France ont préparé la déclaration finale du sommet, qui sera soumise pour adoption au sommet des chefs d'État et de gouvernement demain à Bamako. Les travaux étaient coprésidés par le ministre des Affaires étrangères du Mali et son homologue français. Les deux ministres ont mis l'accent sur la mutualisation des efforts contre les nouvelles formes de violence, mais surtout pour le développement de l'Afrique. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Les ministres des Affaires étrangères de 54 pays africains et celui de la France, plus leurs partenaires, ont validé la déclaration finale du 27e sommet Afrique-France. La France, à travers son ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, est revenue sur l'engagement du président Hollande de faire le développement de l'Afrique une priorité. Pour ce faire, la France veut mobiliser une enveloppe de 2 milliards d'euros pour l'Afrique d'ici 2020 dans le cadre de l'aide au développement. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a fait savoir que la rencontre a identifié des réponses collectives concertées aux nouvelles menaces sécuritaires auxquelles les pays africains et la France font face aujourd'hui. Les participants ont insisté sur le respect des engagements dans l'accord de Paris sur le changement climatique. Par ailleurs, plusieurs chefs d'État sont arrivés à Bamako. Quant au président français François Hollande, il a commencé son séjour par Gao, où il a visité des camps militaires, faire des échanges avec les militaires de la force Barkhane, la MINUSMA et les FAMA. À son arrivée à Gao, le président français a été accueilli par le premier ministre malien avant de regagner la capitale malienne, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, tension à Bouaké, où les chefs des mutins qui tiennent la seconde ville du pays doivent rencontrer aujourd'hui le ministre de la Défense, Alain Richard Donwaï, pour conclure les négociations après l'accord trouvé samedi dernier. Les soldats contestataires exigent le paiement des sommes qui leur sont dues ce vendredi. Gambie, une délégation de la CDAO conduite par le président nigérien Muhammadu Buhari se rend aujourd'hui à Banjul pour essayer de convaincre le président sortant gambien Yahya Jammeh, qui s'accroche au pouvoir, de céder la place le 19 janvier au président élu Adama Barrow. Et puis en Guinée, les viols commis sur les femmes et filles semblent prendre une proportion inquiétante. Plusieurs ONG locales haussent le ton et demandent plus de justice. Certaines de ces organisations condamnent l'impunité qui est, selon elles, un facteur aggravant du phénomène. Plus de détails avec Zakaria Kamara, notre correspondant à Conakry.
Castrer tout homme qui se rendrait coupable des viols, une proposition d'une députée guinéenne il y a quelque temps, mais une réaction qui en dit long sur l'abus dont sont victimes les femmes de la part des hommes en Guinée. Le phénomène prend de l'ampleur et occupe les colonnes des faits divers de journaux. Pour se faire une idée, il faut approcher les ONG.
Le constat est alarmant, il y a plus en plus de viols en Guinée. Et surtout au niveau des enfants.
Binta Anne est présidente de la fondation du même nom pour les femmes et les enfants.
C'est des cas vraiment très tristes parce qu'on a vu des petites filles de moins de 10 ans qui ont été violées par des personnes qui ont une quarantaine d'années, cinquantaine d'années. Et souvent, c'est des personnes dans la famille ou dans le voisinage.
Certains violeurs bénéficient d'une protection à cause de leur lien avec leurs victimes. Moussa Yeroba, présidente de l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée.
Les pesanteurs socioculturels aidants, quand ça se passe dans une famille, on a plus tendance à couvrir la personne. Surtout quand c'est entre cousins et cousines, on ne veut pas éclabousser la famille. On préfère garder le criminel, le couvrir, même s'il risque de violer d'autres fillettes, on préfère le couvrir.
Journaliste, activiste, Moussa Yero est l'organisatrice d'une marche contre une vidéo montrant un artiste chanteur guinéen en train de menacer au couteau une jeune fille nue. Dans son carnet, des cas de viol qui n'épargnent aucun âge.
On a vu un cas à Pita, quand vous en parlez, ça sort de l'ordinaire. Les gens se sont demandé si c'est un cas de sacrifice. Un bébé de 9 mois qu'on a tenté de violer. Heureusement, le criminel n'est pas parvenu. Il y a 4 cas récemment du côté de Koya. Les deux fillettes de 9 ans qui ont été enlevées à Bolbini et violées à Koya. elles avaient 9 ans. Il y a deux fillettes, l'une de 6 ans, l'une de 4 ans. Celle de 4 ans a été violée par un adulte de 46 ans, vous vous imaginez? La fille a passé plus de 3 mois à l'hôpital Ignace Dine pour être réparée.
Le viol est condamné en Guinée et l'auteur passible de peine de prison d'au moins 5 ans selon la gravité des faits. Mais pour les défenseurs des droits des femmes, des efforts restent à faire sur le plan juridique.
Si le crime devient recrudescent, c'est parce qu'il y a l'impunité. Si nous, nous n'intervenons pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a des négociations qui se font à l'amiable. Quelquefois, les gens payent de l'argent au niveau des commissariats ou des gendarmeries pour qu'on libère les personnes. C'est ce qui explique que le phénomène se répète souvent.
Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Politico Rwanda, Thomas Nahimana, prêtre catholique rwandais et opposant qui vivait au Havre, en France, depuis plusieurs années, entend retourner dans son pays. L'abbé Nahimana avait embarqué le 23 novembre à Amsterdam à destination de Kigali via Nairobi. Il lui a été signifié qu'il ne pouvait pas revenir dans son pays natal. Thomas Nahimana entend bientôt tenter de rentrer au Rwanda. On l'écoute au micro d'Idriss Fall.
Franchement, j'ai pas peur. Je suis déterminé avec mon équipe à retourner chez nous et à pouvoir participer à la vie nationale.
Participer à la vie nationale, il faudrait que votre parti soit reconnu quand même, non?
C'est l'objectif premier qui nous pousse à y aller parce que nous voulons y arriver au mois de janvier. C'est pas essayer, mais faire toutes les démarches nécessaires pour faire enregistrer ce parti en vue de pouvoir participer aux élections présidentielles d'août 2017 et aux élections parlementaires de l'année suivante.
Le prêtre catholique et opposant rwandais Thomas Nahimana au micro d'Idriss Fall. Actualité américaine, le président Barack Obama a décoré hier son vice-président Joe Biden de la médaille de la liberté, la plus haute distinction civile aux États-Unis. Une cérémonie chargée d'émotion à 8 jours de la passation de pouvoir à l'administration du président élu Donald Trump. Le politologue américain Lorenzo Morris salue en Joe Biden un homme chaleureux.
Il est aimé par tout le monde, il est très agréable, très aimable, surtout quand il n'est pas devant la télévision. Il parle aisément, ouvertement avec tout le monde, de toute tendance. Il attire l'appui des électeurs noirs, des blancs traditionnels, souvent des gens modérés, de droite aussi bien que de gauche.
Lorenzo Morris, professeur de sciences politiques à l'Université Howard, ici à Washington. Coupe d'Afrique des Nations de football 2017 au Gabon maintenant. La 31e édition du championnat commence demain avec le match Gabon-Guinée-Bissau au stade de l'Amitié à Libreville. Mais l'ambiance n'est pas vraiment à la fête, nous dit l'envoyé spécial de VOA Afrique à la CAN, Timothée Donangmaï.
Le compte à rebours se poursuit ici au Gabon pour le coup d'envoi de la CAN 2017 et la question de la participation populaire continue de se poser. Surtout en comparaison avec la CAN 2012 également jouée ici. Ngoulou Auguste, la trentaine, chauffeur de taxi, sait où le problème se situe cette année.
Imaginez-vous quelqu'un qui a faim, est-ce qu'il peut aller, un ventre affamé, il y a beaucoup de choses au Gabon. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'engouement, regardez vous-même, regardez la vie. Là c'est parce que vous êtes au centre-ville, allez dans la périphérie, vous allez voir, c'est pratiquement rien, il y a rien.
Comment s'est passée la première CAN?
Oui, elle avait beaucoup d'engouement. La première CAN, vraiment, les gens étaient vraiment beaucoup intéressés. Mais par rapport à celle-là, vous-même, vous voyez, elle n'a pas trop d'engouement. Bon, on espère que peut-être à partir de demain, tout ce qu'on demande, c'est aux Panthères aussi de donner aussi l'engouement lors du match, faire en sorte que les Gabonais s'intéressent plus encore à la CAN, surtout pour le premier match.
La question de la crise électorale revient également sur les lèvres comme une autre explication du peu d'engouement des Gabonais par rapport à cette CAN. L'opposition et la société civile appellent à boycotter la compétition. Tout cela place une responsabilité particulière sur les épaules des Panthères, l'équipe nationale gabonaise, estime Eric, un électricien rencontré aux abords du stade de l'Amitié de Libreville.
Normalement, le football, c'est un sport qui ramène un peu la joie aux populations. Donc, ils sont vraiment appelés à être déterminés à remporter, par exemple, les trophées, qui est la coupe de cette CAN, pour amener un peu la joie auprès de la population.
Mais une chose est sûre, une fois que la clameur montera des stades, il sera difficile de résister à la magie du ballon rond ici au Gabon. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de VOA Afrique.